Bon alors du coup Ben, qu'est-ce qu'on fait là pour le prochain tour du jeu? T'as des idées?
Bah je sais pas, on avait parlé peut-être Kikafé ou... Branle-bat de Wombat
Ouais,
aussi, non? Je sais
ouais.
pas, un truc avec des
Ouais, on
animaux.
avait cité ça, ouais, faut qu'on
Salut les
voit.
gars!
Salut Kurt!
Ah salut Kurt, ça va?
Ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau ici?
Bah on parlait du prochain autour du jeu, même si pour moi, pour l'enregistrement, ça va être un peu compliqué parce que je fais un jeu de campagne en ce moment.
Ah oui? T'as joué à quoi?
Là, en ce moment, on joue au Dilemme du Roi avec des copains. Vous rappelez, il y a eu des émissions sur ce jeu-là. Il y a eu un le pour le contre et un jeu
Un jeu
du
du
mois.
mois, je crois. Ouais, c'est
Ouais,
ça, il y a
ouais,
quelques
ouais.
années déjà, ouais.
Mais c'était il y a quelques années, ouais. Moi, j'étais un peu passé au travers. Enfin, j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Et là, récemment, il y a un copain qui l'a acheté et qui nous a proposé d'y jouer. Ben, on est en pleine campagne, hein, puisque c'est un jeu à campagne. Je sais pas combien il y aura de parties au final, mais on est à la cinquième ou à la sixième, je crois.
Vous arrivez à faire ça de manière assez soutenue, ouais, parce que c'est tout le problème des jeux en
Ouais.
campagne, ouais. En
Bah.
campagne, pardon.
En campagne, en compagnie. Bah ouais, enfin c'est le début là, donc souvent au début t'as une grosse motivation, donc on arrive à se caler une session toutes les 2 semaines à peu près. Et bah c'est un jeu qui, les parties durent environ 1 heure, donc on arrive à faire deux parties, je pense, dans une session la plupart du temps en tout cas. À part la première où on a dû bien lire les règles, voilà, s'habituer aux mécanismes et aux mécaniques surtout. Là, la plupart du temps, on fait deux sessions, enfin deux parties par session. On a une prévue la semaine prochaine d'ailleurs. Mais ouais, c'est super intéressant comme jeu. C'est une sorte de coopétitif parce que à la fois c'est chacun pour soi, mais en même temps on est tous des conseillers du roi. Donc des fois, il y a des alliances de circonstances pour prendre certaines décisions, etc. C'est assez marrant comme
Un peu de
comme
négociation, quoi, ouais.
ouais comme d'un coup t'es plutôt copain et tu joues plutôt avec certaines personnes et puis le coup d'après plutôt avec d'autres. Même si en fait il y a un truc très mécanique qui oriente les choix. Hein, c'est, je sais pas si vous avez déjà joué à Reign, ça s'appelle Reign, c'est ça? Ouais.
Ouais, moi, c'est... Ouais, Reigns, ouais, c'était... Bah, de Nerial, c'était un Français qui développait ça, mais qui était exilé au
Ouais.
Royaume-Uni à l'époque. J'avais essayé de l'avoir en interview à l'époque, j'avais pas réussi parce qu'il était trop occupé, mais ouais, grosse sortie mobile. Il y a même eu une version jeu de plateau,
Oui.
d'ailleurs, hein, Fate d'outils qui a participé, je
Ah
crois.
ouais? Ça, je savais pas. Je sais qu'il y avait une version aussi un peu dans un environnement plus post-apocalyptique, un peu avec
Ouais, il y a eu
Laps.
plusieurs
Ça s'appelait
dérivés.
Laps, ouais, il y avait plusieurs dérivés. Mais ouais, donc il y a ce côté un peu mécanique de jauge, en fait, qu'il faut essayer d'équilibrer pour pas que ce soit le chaos dans le royaume. Donc ça, il y a un truc très mécanique là-dessus, des fois un peu artificiel, qui oriente tes décisions, du coup, parce que tu dois faire en sorte que... Enfin, tu peux avoir intérêt ou pas que le royaume ne part pas... Dans le chaos. Et après, t'as aussi, chacun a ses propres objectifs. Alors, il y a des objectifs qui sont aussi très mécaniques, un peu artificiels, de dire, il faut que telle jauge ou qu'un certain nombre de jauges soit à tel endroit, en fait, en plus ou en moins. Mais par contre, après, t'as aussi des objectifs un peu plus roleplay, parce qu'on représente chacun une maison, et du
Ouais.
coup, on a un peu des orientations à long terme qui sont un peu floues encore pour le moment, mais tu sens qu'il y a des choses. Il faut que tu pousses des fois dans certaines directions parce que tu as des objectifs un peu narratifs, un peu plus
Ah oui,
narratifs.
d'accord. Donc justement, je voulais te demander les objectifs que tu as. Je voulais te demander s'ils étaient au long cours, donc sur toute la durée du jeu, ou si tu avais des objectifs qui étaient, comme tu disais, une par
Bah,
partie.
c'est les deux, même si on va dire,
C'est les
ouais,
deux?
les objectifs par partie sont beaucoup plus prégnants pour le moment parce que bah c'est vraiment ça que tu vises pour faire des points au cours de la partie. Mais t'as un peu un lore de ta maison que les autres connaissent pas forcément non plus, qui t'orientent un petit peu. T'as notamment des, tu peux débloquer des hauts faits. C'est vraiment des bonus que tu peux débloquer si tu fais certains trucs. Et ça, c'est des choses qui se font plus au long cours et qui sont plus liées justement à la narration de ta maison, voilà, au style de ta maison, qui peut varier d'une maison à l'autre.
Mais du coup, tu vois, moi, ma question, c'est parce que les deux auteurs, là, c'est Hjalmar H et Lorenzo Silva, tu sais, des gens qui ont fait
Ouais.
pas mal de jeux chez Horrible Guild déjà, et c'est quand même des auteurs assez mécaniques, tu vois, ils ont fait Photosynthesis,
Oui,
Dragon
clairement, clairement.
Castle, Evergreen, Railroading, pas des trucs qui te racontent des histoires. Et moi, tu vois, on
Clairement.
parlait d'autour du jeu tout à l'heure, là, quand Kurt s'est arrivé, et moi, je rêve qu'en fait, ça soit un Crusader Kings du jeu de plateau ou Crusader Kings, en fait, tu sais, c'est un jeu où tu mènes ta famille et tout, et en fait, c'est des micro-histoires, et du coup, à la fin d'une partie, il s'est passé d'énormes choses que tu peux raconter. Est-ce que comme ça, tu te sens dans une espèce d'histoire où à la fin, t'arriveras, enfin, t'es pas à la fin, mais est-ce que t'arrives un peu à raconter, d'un point de vue très narratif et immersif, ce qui s'est passé pour l'instant dans ta partie?
Bah oui, parce que alors pas, on va dire, pas forcément en termes de d'expérience de jeu, mais toutes les décisions que tu prends, parce que bon, globalement, hein, à chaque tour, il y a un truc qui se passe et t'as une décision à prendre entre deux deux choix qui vont orienter un peu ce qui va se passer dans le royaume. Et ça, c'est très axé sur la narration parce que à chaque fois que tu prends une décision, il y a des choses qui se passent et il y a plusieurs moments où t'as des chemins en fait dans la narration. Tu vas ouvrir des espèces de d'histoires ou de comment on pourrait dire de chapitres. Il y en a plusieurs qui peuvent être ouverts. Ouais, des arcs, voilà. C'est ça que je cherchais, merci. Tu vas ouvrir plusieurs arcs narratifs au cours de la partie. Et ces arcs-là, il y en a 6 dans le jeu. Et ces 6 arcs, ils peuvent bifurquer. C'est-à-dire qu'ils ont 2 fins possibles à chaque fois. Donc tous les choix que tu prends vont orienter ces arcs-là vers une ou l'autre des conclusions. Et donc ça, tu le gardes quand même. En plus, ces arcs, tu les gardes d'une partie à l'autre. Donc ça, t'as quand même l'histoire du royaume qui s'écrit vachement. Sous tes yeux pendant tes décisions.
Ouais, peut-être pas au point de Crusader Kings non plus, parce que c'est vrai que Crusader Kings, en fait, c'est des événements, tu vois, de famille, où tu tues tes frères pour prendre le royaume, et finalement tu fais une crise cardiaque, et du coup, bah, en fait, c'est ton petit neveu, et du coup, comme tu incarnes le royaume plus qu'à une personne, et donc, y a un côté comme ça au long cours, mais où ta dynastie, c'est toute une histoire, et des histoires parfois absurdes, et où ça crée des souvenirs, en fait. Et moi, c'est un peu la question que j'avais là-dessus, c'est est-ce que ça va réussir à créer des souvenirs, parce que comme tu le disais, il y a un côté très mécanique, alors que finalement, dans Crusader Kings, il y a un côté où tu essayes de dominer,
oui.
Mais c'est surtout pour créer des belles histoires que tu joues. Et j'ai peur que dans le dilemme du roi, justement, tu sois trop sur des trucs un peu binaires, tu vois, et de, ah bah là, il faut, un
ouais,
peu
bah,
comme dans Reigns.
C'est un peu ça, on va dire, dans le, bah, y a ce côté très mécanique, donc tu ne joues pas pour créer des histoires. Par contre, t'as quand même une narration et une histoire qui suit tes décisions au cours des parties qui est
c'est
qui
la conséquence quoi plus que le
ouais c'est
le
ça
moteur,
c'est plus tout à fait c'est plus la conséquence que le moteur, bien que comme je te le disais on sait il y a plein de choses que tu ne sais pas forcément au début, que tu essayes de deviner, enfin les enfin comme tu as des objectifs un peu narratifs quand même, tu dois quand même essayer de comprendre les enjeux des arcs et essayer de voir un peu où les décisions peuvent mener d'un point de vue narratif. Donc des fois tu les prends très mécaniquement, des fois tu dis ah narrativement aller dans ce chemin là ça va peut-être m'emmener vers un truc qui est important ou tu vois qui fait partie de mes objectifs narratifs que je dois remplir, sachant que comme les objectifs narratifs dépendent de la fin des arcs, en fait tu peux ne jamais le faire, tu vois, enfin si la conclusion de l'arc n'est pas celle que à laquelle tu aurais dû amener ta maison, tu pourras plus jamais se faire cet objectif narratif. Mais on sait pas très bien encore à quel point ça va peser dans le résultat final. Ce qui est marrant aussi, c'est que en gros à chaque partie t'as un classement en fonction des points que t'as fait pendant la partie et tu gagnes différents points parce que t'as des points de prestige et t'as des points aussi de convoitise, je crois. Enfin t'as deux types de points.
Ouais, ouais.
Certains qui paraissent plutôt positifs, d'autres qui paraissent plutôt négatifs, mais on n'a aucune idée, on n'a vraiment aucune idée à la fin du jeu de comment
ça va avoir un impact sur ton score final,
les points,
ouais.
Enfin, ouais, quels impacts vont avoir ces points-là, etc. Donc c'est ça qui est aussi un peu amusant, c'est que bon bah tu sais pas si tu dois essayer d'en faire un peu des deux, si tu vois si ça va être une sorte de multiplicateur,
ah ouais,
ou c'est quoi,
ouais.
Et qu'il faut essayer de varier, ou si tu fais tout le temps plutôt des points de prestige, est-ce que tu vas gagner à la fin. Ça c'est aussi marrant, le côté de tu sais pas comment les points sont comptés à la fin. Tu sais comment les points sont comptés dans chaque partie.
C'est comme si tu commençais un jeu et tu sais pas si c'est le plus bas score ou le plus haut score qui va gagner, quoi, avant la fin de la partie.
Ouais. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Et tu sais pas trop à la fin, ce qui va se passer. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est le cas pour tous les jeux, tu vois. La plupart des jeux dépendent un petit peu aussi de qui tu as autour de la table et de l'ambiance que tu vas mettre de la table.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et bah là, je pense qu'on a un bon groupe aussi, donc ça aide au plaisir du jeu parce que on a quelqu'un qui est justement très un peu cupide, très sur l'argent, un peu roleplay, et puis tu sais, très dans la trahison, un machin, qui a pas trop de scrupules. On a quelqu'un qui est un peu plus neutre, et on a une personne aussi c'est très très drôle parce que à chaque fois il faut prendre des décisions à chaque tour. Hein, à chaque tour tu dois voter ou pour un truc ou l'autre ou passer, tu vois. Et à chaque fois, on a une personne qui dit « Mais putain, c'est trop dur, je sais pas quoi choisir. » Et on lui dit « Mais ça s'appelle le dilemme du roi, le jeu. » Tu savais,
d'accord,
ça
ouais.
S'appelle pas le choix facile du roi. Tu vois. C'est normal que ce soit dur.
L'extension, le choix facile du roi.
où les choix sont évidents, quoi. Mais ouais, donc on passe des, pour l'instant, on passe vraiment des bons moments autour de la table.
Vous êtes prêts pour le dilemme de la reine qui doit sortir l'année prochaine, du coup?
Ouais, j'ai vu ça. Bah écoute, on va voir déjà, on va déjà essayer d'aller au bout du dilemme du roi, voir où ça nous mène. Et je pense que si l'expérience est aussi bonne du début à la fin, on ira sûrement sur le dilemme de la reine aussi, ouais.
Ok. Bah écoute, tu vois, on parlait d'autour du jeu, Crusader Kings et tout. Moi, si je devais partir sur un autour du jeu, ce serait Ocean's Eleven.
Ah ouais?
Ouais, parce que j'ai joué, alors c'est pas tout de suite, mais c'est d'ailleurs je l'ai revendu récemment, c'est Vegas Trip.
Ok.
Qui est un jeu qui est sorti chez Allplay, je sais pas si vous voyez, vous savez, c'est des boîtes carrées comme ça qui parfois sont traduites en français. Il y a par exemple Sail qui est sorti cette année, qui fait partie de leur gamme. Et donc là, c'est un jeu avec Vincent Dutrey qui illustre et tout, et donc c'est dans une ambiance casino où on va devoir faire des casses. Et l'auteur, il a fait pas mal de jeux chez Allplay, c'est lui qui a fait, il en a fait plusieurs en tout cas, notamment Things in Rings qui va arriver chez nous comme truc en stock là chez Matago. Et Vegas Trip, en fait, il cristallise pas mal de trucs qui m'énervent en ce moment dans certains jeux. Il y a quand même des trucs un peu rigolos dedans. L'idée, c'est qu'on va braquer des casinos et on va essayer d'empocher des mises plus ou moins pour marquer des points à la fin de la partie. Il y a quand même des trucs un peu rigolos, c'est que c'est un jeu en équipe tournante, sauf quand tu joues à deux, c'est une variante, mais sinon, tu vas faire un certain nombre de manches et à chaque fois, tu vas changer de partenaire. Et ça, c'est plutôt un peu rigolo. C'est pas inédit, mais c'est assez rigolo quand même. Moustache, par exemple, fait ça aussi. Et il y a un autre truc qui est assez drôle et que tu vois que c'est une rustine de game design, c'est vraiment à la fin, t'as les deux premiers qui gagnent en fait. T'as pas un seul vainqueur. Ou une seule gagnante, t'as les deux premiers, les deux premières gagnent la partie. Et tu vois, en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça reste assez original, mais tu vois que c'est là comme rustine, tu sais, pour pas pourrir le premier si t'es avec lui. Et tu sais, comme des fois dans Dixit ou quoi, où c'est le genre de jeu où tu peux complètement casser le jeu, là, je pense que c'est histoire de dire, bah en fait, tu vises quand même la deuxième place pour essayer de gagner aussi, et pas faire du game making ou quoi. Ouais. Mais c'est quand même un truc un peu rigolo de fin de partie de se dire que les deux premiers ont gagné, tu vois. Ça rend pas le jeu bien pour autant, mais il y a quand même ça à retenir. Moi, ce qui m'énerve en fait dedans, c'est que tu vas avoir des jetons devant toi qui vont aller avoir certaines valeurs, je crois, de 2 à 7 ou un truc comme ça. Et à ton tour, juste, c'est un peu un game design. Ils aiment bien faire ça ces derniers temps, les gens, les auteurs. C'est un game design à la Knizia où ton tour, c'est vraiment juste, tu poses un de tes jetons sous un casino, c'est tout. Tu vois, ton tour de jeu, il est extrêmement clair. Et les casinos, tu vas avoir des casinos truqués et tu vas avoir des casinos sécurisés, entre guillemets, où on triche pas. Et donc, selon, en fait, tel ou tel casino, soit si t'es le premier, si c'est des truqués, bah, en fait, les gens vont t'avoir grillé que t'as triché. Et dans ce cas-là, tu ne gagneras rien si t'es premier, mais par contre, tous les autres vont gagner des points. À l'inverse, si le casino est secure, bah, c'est que le premier qui va gagner des points et qui va remporter la mise qui est sur le casino. C'est des systèmes de scoring un peu différents, on s'en fout un petit peu. Mais donc, t'as ces trucs-là et donc, ces infos-là de si c'est truqué ou pas, en fait, ça va être en début de manche, une personne de l'équipe va recevoir 2 cartes de casino, je sais plus, il y a genre 6 casinos, tu vas recevoir 2 et tu vas décider lequel est truqué et lequel est sécurisé. Et donc, tu vois, t'as un petit peu d'infos que tu vas partager à ton ou ta partenaire de jeu, mais chaque équipe va un petit peu faire ça. Et bon, il y a un truc pour fixer si t'es à 3 ou 5, blablabla, il y a un truc où tu joues tout seul. Mais donc, c'est tu sais, ce jeu d'information partielle, et où, bah, selon les moves de chaque personne, tu vas te dire, ah, là, t'as joué ça ici. Alors, il y a quelques autres contraintes de pose et tout qui font que, tu vois que c'est là aussi pour servir le game design. C'est pas très intéressant en termes de sentiment de jeu. Mais tu vois, on est dans ce genre de jeu où tu vas essayer de te placer pour gagner des points, mais en même temps, tu veux pas révéler trop d'infos.
Peu, ouais.
Et donc, t'es dans cette espèce de mélange entre jeu de déduction, jeu de bluff, de guessing en équipe, avec quelques pouvoirs en plus sur les casinos qui sont pas non plus très intéressants, les pouvoirs, je t'avoue, mais qui vont quand même orienter certains trucs. Et le problème, en fait, c'est ça rejoint, là, dans le jeton dans la mare, tu sais, les potes, ils doivent parler de Amanite. Mmh. Et j'ai eu le même problème sur ce jeu-là, et j'ai eu le même problème aussi récemment dans un autre all-play qui est Soda Jerk. Et en fait, c'est des espèces de jeux qui savent pas où se placer, je trouve, qui sont un peu le cul entre deux chaises, et où t'es un peu entre la déduction, un peu entre du bluff, mais t'es pas vraiment dans un jeu d'ambiance. L'ambiance, elle est pas trop là à table, tu vois, tu te fais un peu chier. Notamment dans Vegas Trip, tu vois, enfin, t'es là et ton tour, il est pas passionnant, quoi. T'es vraiment juste à poser. Mais tu vois, il y a des jeux dans certains Knizia ou quoi, où la tension, quand tu poses un jeton alors que t'as ça à faire à ton tour, elle est là, quoi. Ouais. Tu vois, dans Rebirth, c'est ça. Et ben là, non, en fait, tu le poses et tu fais, bon, vas-y, je le pose là. Mais t'as pas trop d'engagement, tu vois, t'as pas la tension que t'attends de ce genre de jeu-là. Et t'as pas non plus le fun qu'il peut y avoir dans des jeux plus de pur bluff ou pur guessing. Moi, je sais pas si vous aviez joué à 30 Kara, à l'époque, il y a peut-être un peu plus de 10 ans.
J'ai dû en faire une partie, mais je t'avoue
c'est
que...
un truc où c'était pareil un petit peu, mais on jouait des contrebandiers de diamants et tout, et du coup, en fait, il y avait un thème qui portait plus à l'ambiance. Ouais. Là où, par exemple, la Manite, je trouve, a un thème plus plan-plan, Soldat Jerk aussi, où on va juste rajouter des cartes dans des trucs où ça va être des oranges, des machins, des trucs. Et Vegas Trip, bah, pourtant, le thème, tu vois, pourrait porter un peu au jeu d'ambiance ou quoi. Et c'est pas le cas du tout, quoi. Et c'est vraiment plein de jeux comme ça qui, tu vois, qu'ils essayent de prendre une direction, tu vois où ils essayent d'aller, mais en fait, ça marche pas. Parce que ben c'est pas du pur jeu de déduction comme l'aimerait Cargo, tu vois, parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas les infos pour, mais c'est pas, ça se transforme pas non plus en jeu de guessing pur et d'ambiance. Et du coup, tu vois, c'est un peu bâtard. Et dans Vegas Trip, en l'occurrence, ouais, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé à 2 où c'est une variante. J'ai essayé à 4, j'ai essayé à 6. Et à chaque fois, le sentiment de jeu, c'est que c'était beaucoup trop long pour ce que c'était quand même. Qu'en plus, du coup, on réfléchit trop longtemps par rapport à ce que le jeu mérite. Et du coup, ça devient chiant. Genre, tu fais de l'analyse paralysis alors que le jeu le mérite pas du tout, mais qu'en fait, il te pousse quand même à le faire. Et donc, ouais, assez agaçant. Et ça cristallise, ouais, comme ça, pas mal de sentiments d'expérience de jeu que j'ai eu sur des jeux un peu dans cette veine-là. Je trouve que celui-là, il faisait pas mal tout ça, donc voilà, assez déçu.
Dans ce que tu décris, effectivement, t'as l'impression que, en fait, pour faire chier les autres, entre guillemets, tu pourrais devoir bluffer pour les aiguiller sur une mauvaise direction, mais en même temps, t'as pas intérêt, ouais, t'as l'air de pas avoir intérêt parce que... Ouais,
ça coûte trop et t'as pas le temps pour bluffer. Et un peu pareil, dans Amanite, t'as pas le temps de bluffer, enfin, tu peux pas bluffer, t'as que 3 tours dans Amanite, c'est encore pire à ce niveau-là. Ouais, en fait, c'est des jeux un peu bâtards qui veulent aller quelque part, mais qui arrivent pas trop à y aller, je trouve.
Ouais, qui sont trop entre 2 ou 3.
Ouais, c'est ça, ouais. Et pas assez dirigés vers un sentiment de jeu qu'ils essayent de faire, tu vois, et de créer.
Petite déception.
Ouais. Mais je suis toujours curieux un peu des roleplays comme ça. Et du coup, je l'ai remis en vente. D'ailleurs, je l'avais mis sur le bon coin et il a mis du temps à être mis parce que je pense qu'avec le titre Vegas Trip, j'avais bien indiqué que c'était un jeu.
Ah,
en
oui.
fait, au début, il l'acceptait pas.
Ils ont cru que tu proposais des prestations.
Bah, je sais pas, ouais, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a eu du mal à partir, mais il est parti à un prix à peu près d'achat, hein, parce que de toute façon, c'est des trucs qu'on trouve difficilement en France. Mais sur le marché de l'occasion, ça peut se trouver. Mais du coup, t'arrives va le revendre à peu près au prix d'achat, donc c'est pas des grosses pertes. Donc voilà, un peu déçu. Et toi, Kurt, t'as joué à quoi ?
Eh ben moi aussi, j'ai joué à un jeu qui se trouve difficilement en France. Si je vous dis Klaus Jürgen Vredreux, vous me dites quoi ? Le gros jeu qui vient.
À tes souhaits.
À mes souhaits.
On dit à tes souhaits, mais on dit Carcassonne. On dit Carcassonne.
Oui, Carcassonne. Et si par-dessus, je vous rajoute le docteur Rainer Knizia.
Bon, on en parlait.
Et ben voilà. Et ben il faut savoir qu'ils ont fait un jeu ensemble. Alors je pense que c'est le second qui a adapté un jeu du premier. Un jeu qui s'appelle Carcassonne the Castle ou Zamek ou Carcassonne d'Ibourg. Il est pas sorti en français. Ça donnerait Carcassonne le château, qui est une version 2 joueurs de Carcassonne qui se joue dans un château. Je sais pas si vous vous souvenez, Cyrus et le professeur avaient débattu à une époque des jeux qui se faisaient avec des cadres fixes ou des cadres mobiles.
Ouais.
Et ben là, autant Carcassonne, ça se joue sur un cadre libre.
Ouais.
Et ben là, le cadre il est fixe. On commence la mise en place par installer les murailles du château et on devra jouer dans le château.
Okay.
Impérativement, on n'en sort pas.
C'est un gros changement de paradigme parce que sinon, t'as l'impression d'explorer la campagne de Carcassonne quand tu joues à Carcassonne.
Exactement.
Moi, j'ai l'impression d'un monde ouvert qui se crée sous tes yeux. Et là, pas quoi. Là, le monde est fermé.
Pas du tout. Le monde est complètement fermé. On met pas un pied en dehors du château.
Et la muraille a une forme fixe, du coup. Enfin, c'est toujours
elle
la même muraille.
Elle a une forme fixe. Ouais, c'est toujours okay. La même. Elle a une forme qui est pas régulière. C'est pas un carré ou un rectangle. Elle va faire des petits. À un moment, elle va faire un angle. Elle va faire un petit détour par là, okay. un petit creux à cet endroit-là, etc. Ce qui introduit justement une chose amusante, ce qui introduit plein d'angles droits dans cette muraille. Et c'est important parce que c'est la muraille qui sert de compteur de points.
D'accord.
Et à chaque fois que notre jeton avec les points va arriver sur un angle, on va pouvoir récupérer un petit bonus qui aura son importance à la fin de la partie ou en cours de partie. Ça permettra de faire des actions en plus, soit de marquer des points sur certaines choses. Après, ça se joue tout à fait comme Carcassonne. On pioche une tuile et on la pose pure. Et puis, les conditions de pose, ça va être le seul impératif, c'est qu'il faut que ce soit cohérent. Et la seule cohérence, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il faut que c'est les chemins. On peut pas interrompre un chemin, il faut pas couper un chemin. Et un chemin peut pas rentrer dans un bâtiment. Sinon, contrairement au Carcassonne normal, où tu sais, une ville doit absolument suivre une ville. Là, non. Le bord d'une tour peut très bien couper le bord d'une maison. C'est pas grave. C'est 2 bâtiments différents. Et on peut très bien refermer une tour comme ça, ou refermer une maison comme ça. Ça a pas d'importance.
Donc, il y a un peu moins de contraintes de pose, du coup.
il y a un peu moins de contraintes de pose. Et c'est là où c'est intéressant, parce que si on voit que l'adversaire, il commence à faire une grosse maison, bah peut-être que je vais aller lui clôturer sa maison pour pas qu'elle s'agrandisse, et puis que bah il marque pas 50 000 points. Et justement, ce que je disais sur on ne marque les tuiles bonus que si on arrive strictement sur la case, alors sur deux cases, par exemple c'est le 60 et le 61, et bah ça peut être, oh là, attends, avec sa maison là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, oh bah je vais la lui fermer tout de suite, comme ça il sautera l'angle et il le prendra pas.
Ouais, c'est rigolo comme dynamique ça.
Il y a un côté, enfin j'ai l'impression quand de ce que tu écris, il y a un côté Médina un peu, même si Médina tu réclames, on va dire, les ensembles de maisons ou quoi après, enfin quand tu veux, là en fait quand tu poses la tuile, tu te décides tout de suite de poser ton bonhomme dessus ou pas, enfin où t'es même obligé de poser ton,
ouais ça c'est comme Carcassonne, ouais.
Ton meeple,
okay. Comme dans Carcassonne normal, tu ne peux poser le meeple que sur la tuile que tu viens de poser.
Mais t'es obligé de le poser ou pas?
Non.
Ça veut dire que tu peux créer, ça veut dire que quelqu'un peut rejoindre une maison qui avait commencé d'être, t'as un nombre limité de meeple, du coup.
Si par exemple t'as été très très gourmand en début de partie, que t'as tartiné tous tes meeple, mais que tu n'en as plus aucun de disponible, et que tu continues à poser des trucs qui sont pas en lien avec ce que tu faisais au début, tu peux venir agrandir quelque chose qui a commencé ton camarade, et okay. C'est toi qui en profitera derrière, exactement. Oui.
Et du coup, il y a un aspect un peu plus course que dans Carcassonne, vu que tu disais qu'il y avait les bonus là sur la piste de score qu'il faut essayer de viser.
Il y a un aspect course un petit peu parce qu'on peut viser les bonus qui sont intéressants sur l'extérieur de la piste de score, oui. Et puis il y a ce côté aussi où, alors même si dans Carcassonne on sait quand est-ce que ça va se finir quand la pile se sera, oui, terminée, mais là il y a aussi ce côté de c'est fermé, on sait qu'on... Alors on sait qu'on remplira pas tout, hein. Il y a moins de tuiles que d'espace dans le château, mais on voit quand même l'espace se réduire au fur et à mesure. Alors que dans Carcassonne, à l'inverse, on
les
voit
les possibilités s'ouvrir, ouais.
Le plan se développer. Voilà.
Là, c'est, ouais, rigolo, ouais. C'est vrai ce que tu dis, ouais. C'est vrai ce que tu dis, c'est rigolo parce que c'est en termes de mise en scène, c'est deux choses très différentes, quoi.
Oui.
C'est assez drôle.
Tu fermes des possibilités quand c'est fermé, là où tu en ouvres quand c'est ouvert, quoi.
Ouais.
Voilà, donc moi j'ai beaucoup apprécié, et puis je trouve que les parties sont plus rapides qu'un Carcassonne.
Bah, c'est uniquement deux aussi, ce que tu peux questionner
uniquement
d'ailleurs.
Deux.
C'est bizarre, enfin je sais pas, c'est peut-être parce que bah t'es plus dans du... En fait c'est vraiment du Carcassonne coupe-gorge, parce que Carcassonne tu peux y jouer à la cool, et tu peux y jouer de manière coupe-gorge, quoi, vraiment, surtout quand tu joues à deux. À haut niveau, c'est vraiment impitoyable. Et donc là, ça accentue ce côté-là, et le fait de le réduire à deux, je pense que c'est aussi dans cette dynamique-là.
Et puis là, il n'y a pas la possibilité de, que je disais, n'importe quel côté de bâtiment peut venir clôturer un autre bâtiment. Dans Carcassonne, il y a ce côté où, je vais lui faire un... Non, mais tu sais, il a commencé une ville,
ah oui,
je vais lui agrandir,
ouais,
sa ville sur un an qui part totalement,
il
ne pourra jamais la
fermer.
Ouais. Là, même si tu agrandis un truc que le camarade, il a déjà commencé, très facilement, il peut venir la fermer. Tu l'as arrangé. Alors, c'est vrai que, petit reproche qui peut être fait à Carcassonne, le château, c'est qu'on va potentiellement jouer chacun un peu de son côté du château. Il y a ce risque-là. Où
ça,
il y en a un qui va jouer.
Ça dépend du style de jeu. Hein,
ouais, il y en a un qui risque de jouer en bas, l'autre qui risque de jouer en haut. Assez peu, on va se croiser. Après, ça va dépendre du... Ça va dépendre, ouais.
La lisibilité est affreuse au niveau des routes, par contre. Enfin, elle est beaucoup plus... C'est rigolo parce que c'est pas exactement la même dynamique, mais je trouve que c'est plus difficile de s'y faire que sur le Carcassonne de base, parce que les routes peuvent se... Moi, j'ai joué avec Kurtz, notamment, et tu peux finir contre un mur, en fait. Mais pas tous les murs, parce que t'as des endroits de départ pour poser les tuiles de départ, et celle-ci, c'est pas vraiment le mur. Enfin, c'est des petits détails. Bon, t'arrives vite à t'y faire, hein. C'est pas la mort. Mais c'est peut-être moins lisible que Carcassonne du fait de cet enfermement-là. Et des couleurs utilisées sûrement aussi. Mais ouais, je sais pas à quel point c'est... Enfin, ça doit sûrement être Knizia qui s'est amusé à revisiter.
J'imagine aussi, oui.
Avec le nom de...
Bah là, ce que vous me dites, jeu à deux avec un peu des... Enfin, il y a quand même un côté un peu contraint, ça... Effectivement, tu sens un peu la patte de Knizia, quoi.
Ouais, si t'es perdu ou des trucs comme ça, mais... Après, Knizia, ouais, a pas fait tant de jeux... Enfin, il a dû en faire plein, des jeux uniquement à deux, mais tu vois, ces grands classiques sont pas que à deux, finalement, à part les si t'es perdu, je crois. Bah si, Shoten Toten
aussi, ouais.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé aussi, hein, notamment ce que tu disais, hein, ce truc sur les tuiles murs, là. Quand bien même, il faut se faire au fait que cette case, elle vaut deux valeurs, donc quand tu déplaces... Ton pion, il faut y penser. C'est pas forcément évident, mais ça crée vraiment une dynamique rigolote, quoi. Parce que effectivement, ça pousse à donner des points à l'autre parfois, parce que tu vas,
oui,
te faire rater
ça.
Un truc. Et c'est une dynamique qui est absente de Carcassonne de base.
Ou bien même toi. Alors cette maison là, est-ce que je la ferme tout de suite pour marquer strictement les 3 points qui me manquent, ou est-ce que là j'ai quand même la possibilité de bien l'agrandir, de faire un truc balèze qui marquera, ouais, beaucoup de points plus tard, sachant que je sais pas ce qu'il y a sous les bonus, donc
il y a aussi ce truc là qui est rigolo, c'est ce que tu disais, c'est que toutes les cases vont pas être remplies. Il faut savoir que la personne qui a réussi à réclamer, à prendre possession de la plus grande maison, va scorer en fait la plus grande zone de cases non recouvertes adjacentes entre elles. Et donc, par exemple, s'il y a 11 cases qui n'ont pas été recouvertes et qui se touchent toutes, ça fera 11 points à la fin pour cette personne, c'est beaucoup, tu vois. Et en fait, c'est rigolo parce que ça crée une dynamique où si tu sais que tu vas pas être cette personne, tu vas essayer de casser ces zones pour que ça fasse moins de points. C'est plus une dynamique de dernier tiers de partie, tu vois. Mais c'est encore une autre dynamique aussi rigolote.
Et puis, petite anecdote amusante pour finir, c'est un jeu qui date de 2003 et il a eu une extension qui est sortie en 2013. Voilà, une toute petite extension avec un faucon que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Donc, je sais pas ce que l'extension change.
Ouais, d'accord, j'avais pas compris que c'était aussi vieux. C'est un truc qui est juste jamais sorti en France.
Jamais sorti en France, non. T'as pas idée de l'univers Carcassonne qu'on a jamais eu en France. On en a eu beaucoup, mais c'est rien comparé à ce qui existe.
Ouais, ouais. Non, mais je me doute. Mais
sorti en Pologne en 2019, donc il n'est jamais trop tard.
Voilà, exactement.
Ouais, non, mais c'est étrange parce que c'est quand même une franchise,
ouais,
entre guillemets, qui fonctionne,
ouais,
bien.
Moi,
tu te dis c'est Knizia, donc ça peut, tu pourrais te dire,
ouais,
aussi.
Bah, en plus, ouais.
Moi, c'est la version que je possède du jeu, c'est la version polonaise qui s'appelle Zamek. Ça veut dire château en polonais. On est sur de la belle anecdote. Voilà.
Ok. Ouais, ben. Moi, effectivement, j'ai bien aimé aussi. On te conseille, Benofix, me joins à la recommandation,
okay,
de Kurt.
Si t'as l'occasion de le tester.
N'hésitez pas à le prendre pour le prochain Weekend Proxy.
Avec plaisir, ouais. Bon, les gars, moi, je vais y aller. Je vais vous laisser continuer à débattre de votre autour du jeu tranquillement.
Bon, en fait, je me dis, Kikafé, ça va être compliqué de trouver des œuvres. Bon, on en reparle.
Ouais, ça roule, ciao.
Allez, ciao.
Allez, salut.
Jouez bien, salut.